pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la conférence sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre suscite beaucoup d'espoir. Durant toute cette année 2015, le monde se met en marche pour tenter de parvenir à un accord qui limitera le réchauffement et permettra à l'humanité de vivre durablement dans des conditions acceptables par tous. Dans C'est pas du vent, à partir de ce samedi, nous vous proposons chaque semaine un rendez-vous pédagogique avec l'expert Pierre Radan sur les enjeux climatiques, l'avancée des négociations internationales et la manière dont les différents pays se positionnent face au dérèglement du climat. Cette chronique sera aussi déclinée en vidéo sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. À propos de multimédia, un dossier Paris Climat 2015 vient d'être mis en ligne. Vous y retrouverez tous les reportages, les analyses et les débats produits sur ce thème par les rédactions de RFI. Autre rendez-vous, toujours dans C'est pas du vent, chaque mois, Pauline Mocor nous emmènera à la découverte des Français qui inventent de nouvelles façons de consommer, de se nourrir ou d'habiter plus respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons dans le sud-est de la France, à Villeurbanne, près de Lyon, où une dizaine de familles ont construit un village vertical, un immeuble de 5 étages qui est un véritable laboratoire d'écologie urbaine.
L'idée de départ, c'est que quand on a une trentaine d'années, qu'on a une famille et qu'on veut la loger correctement au centre-ville, c'est extrêmement difficile. Donc soit on rentre en concurrence tous les uns avec les autres pour essayer de trouver le bon plan, soit on se groupe pour trouver une solution collective parce qu'on est plus fort ensemble. Quand on mutualise de l'espace, quand on mutualise des véhicules, quand on fait des achats groupés dans le voisinage, quand on s'échange des services, on a une qualité de vie qui augmente pour des prix qui sont faibles. Donc on peut minimiser notre impact sur le climat et les ressources naturelles et les ressources énergétiques sans sacrifier sur le bien-être. Au contraire.
Le village vertical, c'est un reportage de Pauline Mocor à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Terra Eco, le magazine qui change le monde au quotidien sur Internet et mensuellement en kiosque, a un titre provocateur à la une de son édition du mois de mars. Écologie, pourquoi tout le monde s'en fout? Bonjour François Meurice.
Bonjour.
Vous êtes l'un des rédacteurs en chef de Terra Eco. Alors, est-ce que c'est votre conviction? Tout le monde s'en fout de l'écologie?
En quelque sorte, oui. Bon, pas nous, pas nos auditeurs, bien entendu, pas nos lecteurs de Terra Eco, mais ce n'est qu'une petite minorité, malheureusement. Donc oui, on a l'impression à la rédaction, mais c'est vrai que c'est un peu provocateur, que une très grande partie de la population s'en fout de l'écologie.
Alors Victor Hugo le disait déjà il y a 2 siècles, hein, c'est écrit dans l'article de Terra Eco, c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.
Oui, c'était vrai il y a 2 siècles, ça l'est encore et peut-être que les conséquences sont pires aujourd'hui.
Oui, on pense notamment au changement climatique. Alors côté politique, il y a eu un rapport d'un think tank qui s'appelle la Fabrique écologique qui nous explique justement si nos élites, on dit ça hein, encore, nos élites politiques sont sensibles à cette question ou pas?
Évidemment, la réponse est globalement négative. Alors c'est vrai qu'il y a plein de paradoxes en fait dans la relation entre la société et l'écologie. C'est qu'on peut pas le nier, ça monte, ça prend, ça infuse malgré tout par rapport à il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Mais il y a encore très clairement un blocage. Il manque d'un électrochoc et notamment vis-à-vis de nos élites, de nos hauts fonctionnaires. Alors il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'éducation de ces hauts fonctionnaires, de ces décisionnaires.
Alors l'électrochoc, pourtant, il est latent hein, régulièrement. On parle des changements climatiques, de perte de biodiversité. On voit que l'énergie est de plus en plus chère. Enfin, ça clignote au rouge de partout quand même.
Oui, le diagnostic est là. Ce qui manque peut-être, c'est justement l'électrochoc. C'est comment passer à l'étape d'après. Ça, c'est encore un peu mystérieux, mais c'est vrai qu'on a tous notre part à jouer là-dessus. Il n'y a pas que les élites.
Alors justement, au-delà des politiques et des décideurs, est-ce que finalement, ce n'est pas ancré en chacun d'entre nous, cette politique de l'autruche? C'est en tout cas un petit peu l'avis de Jean-François Toussaint, qui est membre du Haut Conseil de la Santé publique.
C'est vraiment un des modes potentiellement d'adaptation. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que refuser la fin, refuser la possibilité de la catastrophe, fait partie de nos modes adaptatifs. C'est la question de se dire, est-ce que je suis vivant pour aujourd'hui ? La réponse est oui, donc j'ai des projets pour demain. Et à partir de ce moment-là, c'est rebondir en se disant, nous y serons encore demain. Et donc, du coup, on peut prévoir l'après-demain, on peut prévoir la suite. Et se dire qu'on a toujours été capable de s'adapter, puisque nous sommes vivants aujourd'hui en tant qu'espèce et en tant qu'individu, nous, par symétrie, nous donne simplement les capacités à nous dire, mais je me projette dans le futur et donc nous y serons encore dans 500 ans. À la vitesse à laquelle ça se passe, ces changements, et à la vitesse à laquelle on voit, par exemple, disparaître un certain nombre d'espèces, toute la question de la biodiversité végétale et animale est confondue dans ce problème de l'adaptation au sens très général au changement climatique, mais aussi à l'espèce humaine, eh bien, on se rend compte que on pourrait rentrer dans cette sixième extinction d'ici 2 ou 5 siècles. Voilà la marge d'incertitude à la vitesse à laquelle se font actuellement ces extinctions. C'est-à-dire que d'ici 200 ou 500 ans, on se retrouvera avec 75% des espèces végétales ou animales qui auraient disparu. Donc cet ordre de grandeur à nouveau est tellement massif qu'on ne peut pas le concevoir individuellement. Et donc on le refuse et on se dit non, ça, sur l'étalage de nos gains, de tout ce qui ont été ces impacts positifs dont on parlait au début, à ce moment-là, ça va continuer quand même, hein.
Vous êtes d'accord avec cette analyse de Jean-François Toussaint, François Méris?
Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai cas de conscience vis-à-vis du temps. C'est tout ce flou qu'il y a. Alors, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 2 siècles. On a un problème en tant qu'être humain, en tant qu'homo sapiens vis-à-vis de ce moyen terme, de ce court terme. On sait qu'on va dans le mur, on sait que dans 50 ans, il se passera telle ou telle chose. Mais comment on fait pour agir?
Alors, certains experts s'expriment évidemment dans ce dossier de Terra Eco et on apprend, et on le sait un petit peu, mais là aussi on refuse de le voir parfois, que nous sommes des êtres d'habitude. En fait, ce qui compte pour nous, comme pour tous les mammifères, hein, c'est la reproduction, l'alimentation et puis...
un abri.
Où est-ce qu'on dort le soir? Mais au-delà de ça, pour voir plus loin, c'est compliqué.
Oui, exactement. On est à la fois livré à nous-mêmes et en même temps, on sait comment se protéger avec ces quelques notions-là. C'est vrai que ça demande un effort de changer. Quand globalement, les citoyens du Nord s'en sortent pas si mal, pourquoi changer? On sait bien qu'on va dans le mur, encore une fois. Mais comment faire? Comment se dire que le mur arrive tellement, on est tellement proche de ce mur qu'il faut passer à l'étape d'après? Ça, on ne sait pas exactement comment faire. Et c'est vrai que l'habitude, même si elle est mauvaise, on continue à le faire. Ça marche pour le tabac, ça marche pour plein de choses. On sait que l'habitude est mauvaise parfois. Mais c'est une habitude.
Alors, vous avez une longue interview de la philosophe Cynthia Fleury qui est interrogée par David Solon et elle dit, nous avons créé finalement l'avènement de la logique du profit et nous n'arrivons pas à en sortir.
Oui, on prend. L'homme prend. Il n'échange pas, il n'essaye pas d'équilibrer, il prend. Alors, quand c'est vis-à-vis de la planète, des ressources naturelles, il les prend, il les use, il les mange, il les avale, et après, il en reste rien. Il y a un problème vis-à-vis, très clairement, du profit de cette logique-là, et on ne sait pas là non plus comment vraiment en sortir.
Pourtant, on passe notre temps à le dire dans cette émission et vous aussi dans votre magazine, hein, on connaît les solutions, il suffit de les mettre en pratique, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça va venir. Alors, en attendant, autre article dans Terra Eco de ce mois de mars, le village le plus sec du monde. Alors, c'est au Chili, dans l'extrême nord.
Oui, dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est un village qui s'appelle Quiagua. Et ce village est sec. Alors, bien sûr, on pourrait penser qu'on va parler changement climatique, cette sécheresse-là. C'est un petit peu plus compliqué que ça, même si les très secs, il n'a pas plu depuis 22 ans.
Pas une goutte.
Pas une goutte depuis 22 ans. C'était malgré tout une oasis. Ce village, le vrai problème, ce sont les industries et les mines autour de ce village qui ont pollué le fleuve qui traversait ce village et qui, très clairement, ont confisqué l'eau. Il y a 2 entreprises qui sont en cause et donc ce village souffre aujourd'hui d'un manque d'eau et clairement, ce sont des camions-citernes qui ravitaillent la population.
Alors, est-ce que, cela dit, on peut avoir une petite lueur d'espoir pour ce village? Parce qu'il y a des initiatives pour faire redémarrer le tourisme et donc un peu la vie.
Exactement. Donc, les 2 entreprises n'ont jamais été condamnées, n'ont pas payé d'amende.
Alors, on va peut-être les nommer quand même.
Oui, on va les nommer, il n'y a pas de raison. Elle s'appelle Codelco, c'est le numéro 1 mondial du cuivre. Et l'autre, c'est SQM, c'est aussi un acteur minier, une société chimique chilienne. Et donc, elles n'ont rien payé, mais elles se sont retrouvées un petit peu coincées, car en 2003, après un nouvel accident d'une des 2 sociétés, la population s'est souvenue en quelque sorte qu'elle était d'origine Aymara, de cette ethnie Aymara, et dans ce cadre-là, vis-à-vis de l'État chilien, on peut demander à être être entendus et à participer aux décisions sur la commune. Et donc ces sociétés, indirectement, ont fini par payer un petit peu, et donc on lance un peu d'écotourisme, tout simplement, puisque c'est une région très intéressante. On y trouve des momies, on y trouve un chemin inca, on y trouve beaucoup de choses.
Voilà, quand on se met ensemble, hein, c'est ce qu'on disait juste avant, finalement, ça donne des jolies choses, et ça peut donner aussi une éolienne urbaine, vous donner même les coordonnées du site internet, parce qu'en fait, cette éolienne urbaine qui a été imaginée par un ingénieur a décidé de mettre à disposition de tout le monde ses modes d'emploi, ses plans.
Exactement, c'est de l'open source, ça existe dans pas mal de secteurs. Et donc là, c'est un jeune ingénieur qui s'appelle Théophile Bresson et qui a monté donc cette urbolienne, cette éolienne urbaine. On le sait, on consomme beaucoup d'électricité en ville. L'éolienne est a priori une bonne idée, mais en ville c'est compliqué, il y a des immeubles, donc on essaye de mettre des mini-éoliennes, mais là il s'agit d'attirer le vent, et c'est pas forcément très simple. Donc il a monté un prototype qui devrait être sur le marché d'ici 1 à 2 ans, et tous ensemble, donc lui effectivement au départ, mais les gens qui veulent se greffer, comme c'est un projet en open source, les gens qui veulent se greffer aident à la concrétisation de cette petite éolienne qui marche très bien, qui a des très très bons rendements.
Et donc, si on souhaite participer à cet élan collectif, vous donnez un site internet?
Oui, c'est donc le site internet d'AeroSeed. Ça s'écrit AeroSeed.com.
Et alors maintenant, un petit signal d'alarme qu'on va tirer. Vous l'avez peut-être fait ce matin. Attention, quand on se rase, il ne faut pas se raser avec n'importe quoi. La mousse à raser que l'on trouve quand même dans de nombreux pays du monde, eh bien, n'est pas si douce que cela.
Exactement. Ça part en fait, cet article qu'on a fait sur la mousse à raser, d'une campagne qui a interpellé le champion de natation Florent Manodou, qui est l'égérie d'une marque de mousse à raser, en lui disant « Flo, sauve ta peau ». Tout simplement parce que dans la mousse à raser, il y a plein de petites substances qui sont chacune prises une par une un petit peu nocives, ou on ne sait pas trop, peut-être un petit peu un perturbateur.
Mais il y a l'effet cocktail.
Exactement, le fameux effet cocktail, tous ensemble. Et puis surtout, évidemment, quand on se rase, c'est une vie de rasage, donc c'est sur du long terme. Donc peut-être que le butadiène, les parabènes, ce genre de substances-là, une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais toute une vie et toutes ensemble, ça peut être très risqué.
Voilà, il y a notamment ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui ont des conséquences sur nos hormones et peut-être sur la fertilité.
Exactement, sur la fertilité, sur le poids des bébés également. On a pu observer des différences, voilà, les perturbateurs.
Enfin, les bébés ne se rasent pas.
Les bébés ne se rasent pas, mais donc ce sont parlés. Ce ne sont pas directement sur les produits cosmétiques pour bébés.
Merci beaucoup François Meurice. Tout cela est à lire dans le numéro de Terra Eco daté du mois de mars et sur le site internet www.terraeco.net. Merci François.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, C'est pas du vent va à partir de cette semaine, dès aujourd'hui, essayer de vous expliquer les enjeux de la grande conférence sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises sur l'antenne, mais pour vous l'expliquer de la façon la plus pédagogique possible, nous allons recevoir toutes les semaines Pierre Radan, qui est donc expert en énergie et en politique climatique. Et la première chronique, c'est tout de suite.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour.
La semaine dernière, François Hollande a effectué un voyage officiel aux Philippines, voyage durant lequel l'actrice française Marion Cotillard a lu l'appel de Manille.
Nous appelons à la solidarité et à la justice face au changement climatique. Nous avons besoin d'un accord négocié et accepté par tous et pour tous, qui tienne compte de toutes les différences de situation et fasse converger diverses perspectives pour accélérer l'action collective.
Alors Pierre, il y a 195 pays membres à la Convention des Nations Unies sur le climat. Pourquoi le président français a-t-il choisi les Philippines ?
Il est allé aux Philippines parce que les pays tropicaux sont ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique. Surtout les îles du Pacifique et de l'océan Indien. Et le typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines en novembre 2013, fut le pire de l'histoire. Il est tombé 3 mètres d'eau dans les zones les plus touchées en 12 heures, avec des vents de 300 km/h. Qui peut résister à cela ? 8 000 morts, 29 000 blessés. Et plus un pays est pauvre, plus ses infrastructures sont fragiles, moins la population est informée des risques et moins elle a les moyens de se protéger. Le bilan humain se trouve ensuite alourdi car les services sanitaires sont débordés. Et puis une fois la catastrophe passée, moins le pays dispose de capacités de reconstruction, plus il tarde à s'en relever. Et l'aide internationale, par les États, les ONG, ne suffit pas à compenser. Elle arrive trop tard.
Et le paradoxe dans les changements climatiques, c'est que ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus exposés.
Oui, sécheresse, inondations, tempêtes, hausse du niveau de la mer. Depuis 10 ans, les pays tropicaux l'ont compris, ils ont intérêt à agir. Alors, il y a plusieurs catégories de catastrophes. Il y a celles qui sont prévisibles, relativement lentes, comme les canicules. En réduire la gravité est avant tout une affaire de coordination des acteurs publics et des professionnels. Les sécheresses frappent surtout les paysans pauvres qui vivent essentiellement en autosubsistance. Les catastrophes violentes, inondations, tempêtes, sont celles qui ont le coût humain le plus élevé, car elles frappent en quelques heures. Il y a des catastrophes silencieuses, dont les impacts à long terme ne sont pas moins graves. Dégradation de la biodiversité, mort des massifs coralliens.
Alors pour mieux se faire entendre, les pays les plus vulnérables du Pacifique et de l'océan Indien sont rassemblés dans un groupe commun que l'on entend beaucoup dans les négociations internationales, ce groupe que l'on appelle AOSIS.
Alors, ces États-îles, notamment du Pacifique et de l'océan Indien, ont largement perdu la maîtrise de leur destin. Qu'ils soient bons dans leurs efforts d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, avec plein d'actions qu'ils engagent. Eh bien, malgré cela, l'ampleur des catastrophes, notamment la hausse du niveau de la mer, va dépendre de ce que vont faire tous les autres pays de la planète. Donc, ils ont quelque part perdu la maîtrise de leur destin. D'où leur sensibilité, d'où leur intervention très forte dans les négociations internationales sur le climat. Ce groupe AOSIS, c'est le plus actif dans les négociations internationales pour avoir un accord international rapide et ambitieux.
Et c'est aussi pour cela que François Hollande est donc allé aux Philippines.
Bien sûr, François Hollande est allé aux Philippines rechercher le soutien de ce groupe clé à travers ce voyage, mais aussi pour faire comprendre à l'opinion publique française la gravité du changement climatique et l'importance de réussir la conférence de Paris de décembre. Ce voyage révèle aussi le cheminement personnel de François Hollande, longtemps peu sensible aux questions écologiques. Sa prise de conscience date de septembre 2013, quand il a reçu les scientifiques du GIEC, dont il a compris le sérieux du travail. Aux Philippines, c'est la souffrance, la détresse humaine qu'il a rencontrée.
Et ça va aussi participer à sa prise de conscience. Merci Pierre Radan.
Merci, au revoir.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Vous pouvez retrouver cette chronique en vidéo sur la page internet de l'émission et dans le dossier Paris Climat 2015 sur notre site www.rfi.fr. Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous vous emmènerons à la découverte de Français qui s'engagent pour le climat. Ils ont créé un village vertical à Villeurbanne dans la banlieue de Lyon. À tout de suite.